lieux de l'histoire en Pays de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais vous faire découvrir les hauts lieux de l'histoire des Pays de Savoie. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des Pays de Savoie, et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, ce lieu dont je vais vous parler est Thoranglière et son château, témoin de l'histoire de la Savoie. Au pied du massif des Bornes, des beaux coteaux de frêne tapissent le fond de la vallée où se situe la Filière, du côté de Thoran, village près duquel l'origine de la maison de Salles se perd dans la nuit des temps et point stratégique sur la route entre Genève, La Roche et Thônes. Au XIe siècle, le comte Gérold de Genève fait construire sur les terres un fort dont il confie le gouvernement au chevalier Odon de Compé. Mais bientôt, les nouveaux maîtres commettent des violences sur les nobles de Salles, leurs paisibles voisins qui préfèrent prendre leur distance. La famille de Compé devient très puissante et son pouvoir engendre les abus. Possédant des dizaines de seigneuries, ses représentants, hautains et fiers, ont des cannes d'humeur, le moindre incident servant de prétexte à des menaces, procès, vexations de toutes sortes. De retour au pays, les seigneurs de Salles occupent leur maison forte, située à deux pas du château, de ces gens mal intentionnés avec lesquels ils se montrent pourtant dociles. Mais l'ingratitude humaine étant sans limite, en 1465, Jean de Compé, escorté de soldats, fait étrangler le cadet de Salles, espérant par ce geste éteindre la lignée soutenue par le duc de Savoie, Philibert Ier. La famille de Salles obtient réparation tandis que le château de Thoran, confisqué, est offert à Hélène de Luxembourg, comtesse du Faucigny et du Genevois. Hélène ne met pas les pieds à Thoran, contrairement à sa fille, Louise de Savoie, pour laquelle le château revient à la riche maison de Luxembourg-Martigues, dont l'un des descendants vend le bien. En 1559, François de Sales, le père du futur évêque de Genève, en résidence à Annecy, c'est dans ce château familial beaucoup plus modeste que ce dernier voit le jour le 21 août 1567, entre 9 et 10 heures du soir. Dans la chambre, un portrait de saint François d'Assise décore un mur où sans doute le prénom donné à l'enfant, lequel est en outre celui de son géniteur et aussi celui de son parrain, baptisé le lendemain dans l'église de Saint-Maurice de Thoran. Le poupon, arrivé deux mois avant terme et de constitution délicate, avec un bon lait de sa nourrice, il se transforme de jour en jour. À 6 ans, il entre au collège de La Roche, fréquente ensuite celui d'Annecy, avant de se retrouver à Paris, puis à l'université de Padoue. Chaque fois qu'il rentre à Thoran, sa complicité avec Louis, son frère cadet, saute aux yeux. Rien ne subsiste au château de Salles, détruit avec la joie de vengeance satisfaite par les troupes de Louis XIII au moment de l'invasion de la Savoie par la France en 1630. Le baron, Louis de Salles, se bat comme un lion pour défendre le château d'Annecy, dont il est le capitaine-gouverneur. Malgré tout, la forteresse est prise et Richelieu, qui n'aime pas qu'on lui résiste, ordonne que le château de Salles soit réduit en cendres. Une vingtaine d'années plus tard, sur l'emplacement de la chambre natale, on élève une chapelle restaurée du XIXe siècle par le comte François de Rousset de Salles, qui fait ajouter un caveau où sont déposés les restes de ses ancêtres. Par une porte vitrée, on peut apercevoir un retable baroque, tandis qu'à l'extérieur, posée sur un piédestal, une croix de pierre marque l'endroit de l'ancienne chapelle du château, rayée de la carte et dans laquelle saint François de Sales aurait eu l'intuition spirituelle de fonder, avec saint Jeanne de Chantal, l'ordre de la Visitation. La famille de Sales s'installe au château de Thoran en 1630, et après 4 siècles, ses descendants y demeurent toujours. Sans être tape à l'œil, la bâtisse en impose. Un pont-levis, une salle de garde, la prison et ses oubliettes. Un donjon circulaire, des tours, une cuisine voûtée et en 1632 des salons, des chambres, un jardin, des toiles de maître, tapisseries, mobilier, aident le visiteur contemporain à remonter le temps. Avec sa marqueterie d'écailles, un bureau style boule Napoléon III attire plus particulièrement l'attention. Et c'est là que l'histoire de la Savoie va changer du tout au tout. Françoise Joséphine Marie-Philippine de Sales, de 1762 à 1849, est la grand-mère paternelle de Camille de Cavour, promoteur de l'unité italienne et partisan de l'union avec la France contre l'Autriche. Enfant très vite rebelle, Camille intègre à 9 ans l'Académie militaire de Turin. Il en ressort officier, mais démissionne bientôt de l'armée pour entamer une brillante carrière politique dont il gravit les échelons. Dans le privé, il utilise la langue française. Sympathique et jamais avare d'une blague ou d'un bon mot, il aime venir à Toron, dont il goûte la tranquillité, le charme du décor et la compagnie de son cousin, Eugène de Roussy de Sales, ancien officier d'artillerie, dont il se sent proche. Fin gourmet, souriant derrière ses petites lunettes, on lui prête de nombreuses liaisons, mais il ne se marie pas. Son argument, d'ailleurs, est imparable. « Je ne peux pas prendre de femme maintenant, je dois faire l'Italie », dit-il. Et pour faire l'Italie, à l'ombre du puissant voisin autrichien, le chef du gouvernement piémontais a besoin du soutien de la France et de Napoléon III. Les deux hommes s'apprécient et leurs intérêts concordent. Mais le 14 janvier 1858, trois bombes sont lancées par quatre Italiens sur le carrosse du couple impérial en route vers l'opéra. Sorti indemne de l'attentat, comme son épouse Eugénie, Napoléon III accorde néanmoins toute sa confiance à Cavour, qu'il rencontre à huis clos le 21 juillet suivant à Plombières, ville d'eau des Vosges, très à la mode. Au cours de l'entrevue qui s'est déroulée dans une maison dite le pavillon des princes, Cavour, diplomate talentueux, obtient de son ami Napoléon III l'assistance militaire de la France en cas de conflit avec l'Autriche. En contrepartie, le duché de Savoie et le comté de Nice, perdus en 1815, redeviennent français. Un traité secret, signé le 29 janvier 1859, officialise cet accord et prévoit en août le mariage de Marie-Clotilde de Savoie qui a 15 ans, fille de Victor Emmanuel II, avec le prince Napoléon, dit Plomplom, de 21 ans son aîné. Au printemps, répondant à des provocations italiennes, les troupes autrichiennes pénètrent au Piémont. L'armée française franchit les Alpes, remporte en juin les batailles de Magenta et de Solferino. Les Autrichiens se retirent à Milan, où Victor Emmanuel II et Napoléon III font leur entrée victorieuse, malgré quelques accrocs et contretemps de dernière minute. L'alliance tient bon et après de longues tractations, au cours desquelles Cavour impose l'idée qui lui tient à cœur, d'une consultation populaire, le traité de Turin est signé. Le 24 mars 1860, sur ce bureau de Stilboul, que l'on voit aujourd'hui au château de Toron, ainsi que la mitre et la crosse épiscopale de Saint-François de Sales, l'un des pères de la patrie italienne et le docteur de l'amour, deux personnages d'exception sont toujours associés à l'histoire du village de Toron, devenu Toronglière en 1947, plus spécialement à celle de son château, riche de souvenirs, balayant presque un millénaire d'histoire de la Savoie que l'on peut visiter. Cette chronique est tirée d'un livre de Pierre Hoffmann, Au lieu de l'histoire en pays de Savoie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, à une prochaine fois.